C'est la suite de Capissoir. Nous sommes en ligne avec l'Angleterre. Nous recevons notre Congolais de l'étranger. Ça fait 8 ans qu'il vit en Angleterre. Il s'appelle Pichu Malala. Monsieur Malala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez fait le choix de partir vivre en dehors du pays parce que vous voulez approfondir vos connaissances en informatique, qui est votre domaine d'activité et d'études. Alors, votre premier choix, c'était entre la Belgique et la France. Et puis finalement, dites-nous comment est-ce que vous vous retrouvez en Angleterre.
Oui, en Angleterre, c'était d'abord, je suis allé d'abord parce que j'avais une relation là-bas, j'avais une amie très, très chère à moi et je suis allé là-bas, j'ai fait environ 3 semaines. Et après, je suis reparti pour la Belgique et la France. Et j'ai dû vivre une semaine en France, une semaine en Belgique pour essayer de voir comment m'intégrer, comment essayer d'évoluer. Mais bon, j'ai opté pour l'Angleterre parce que j'ai trouvé que les choses étaient mieux là-bas. Et pour moi, c'était un nouveau défi. Il y avait la langue qu'il fallait apprendre, il y avait le domaine informatique qu'il fallait approfondir et j'ai opté pour l'Angleterre.
Oui, M. Pichu Malala, ça fait 8 ans que vous vivez en Angleterre. Moi, je suis un peu curieuse et je voudrais savoir quel peut être le parcours d'un immigré. On arrive dans un pays où on ne connaît pas la langue et on voudrait s'y installer. Je ne sais pas, pour votre cas, aviez-vous des papiers ou bien il fallait justement commencer toutes ces démarches-là à trouver des papiers pour être régulier, entre guillemets. Quel est le parcours?
Oui, je pense que le parcours est vraiment, je dirais, périlleux parce que je dois être sincère. Le parcours est vraiment périlleux parce que quand vous arrivez, vous devez faire les démarches pour avoir les papiers. Et pour avoir les papiers, justement, c'est un procédé qui dépend très rarement de vous ou de votre famille ou de vos amis. Ça dépend du pays où vous arrivez. Par exemple, en Angleterre, quand moi je suis arrivé, c'était à l'époque où il y avait les vigiles pirates, il y avait le terrorisme et il y avait les Noirs qui étaient maintenant impliqués dans le terrorisme. Et ça fait que l'immigration puisse vraiment essayer d'être un peu plus stricte, plus dure, je dirais, envers les immigrés. Ça complique les histoires pour tout le monde et particulièrement moi, j'ai à cibler tout ça, quoi.
Ça dépend d'une personne à une autre. Est-ce qu'on peut arriver là? On va prendre le cas pour l'Angleterre, puisque vous vivez là-bas. On peut arriver, atterrir et se dire je veux m'installer ici. Ma régularisation prendra, admettons, 2 ou 3 ans et puis c'est bon.
Oh non. Personne ne peut décider, personne ne peut prédire que moi ma régulation va prendre d'une année ou quelque chose comme ça. Mais moi, je rentre toujours grâce à Dieu, j'ai fait maximum 6 mois pour que ma situation soit régularisée. Et c'était pas facile du tout. Alors je dirais pas facile du tout. Quand vous arrivez ici, quand vous vous mettez dans cette histoire de régularisation, généralement c'est l'État anglais qui vous prend en charge. Il vous prend en charge, il décide comment procéder à votre cas ou par rapport à votre demande spécifique et consort. Et il peut décider, par exemple, moi personnellement, ils ont décidé de m'envoyer à un endroit qui était à 400 km de Londres, qui s'appelle Watford, et c'est à 10 km de Manchester. C'est une petite ville où il y a que des blancs et qui n'ont pas vraiment l'habitude de voir des noirs. Et ils te mettent là-bas et ils te disent tu t'installes ici et tu commences ta vie là-bas. Et en allant là-bas, pour moi, c'était l'une des choses les plus difficiles à vivre dans ma vie, quoi. Aller vivre dans un endroit où vous ne connaissez pas la langue, vous entourez des blancs, du matin au soir. Et essayer de s'intégrer. Pour moi, c'était vraiment assez difficile. Mais bon, j'avais la morale et c'est passé assez vite.
Vous étiez un peu comme un prisonnier libre, hein, pas derrière les barreaux, oui. Mais vous étiez libre, mais dans une ville où il vous était difficile de vous en sortir. Alors, partant de votre expérience, pourriez-vous conseiller à quelqu'un d'immigrer dans un pays à l'étranger?
Bon, vous savez, cette histoire, c'est pas vraiment facile de dire n'immigrez pas ou immigrez. Parce que généralement, quand vous vivez au Congo, pour vous, l'idéal, c'est d'aller vivre en Europe. Parce que vous voyez, les gens qui sont en Europe, ils vivent mieux. Vous avez les enfants qui étudient bien, les enfants qui sont à l'abri des malaria et qu'on sort. Je ne vais pas lister tout ça. Mais, et peu à peu, généralement, ça peut paraître un peu énorme. Pour moi, ça m'a paru énorme. Laisser tout derrière moi, ma famille, mes amis, tout ce qui faisait mon identité, et aller quelque part où peut-être vous êtes appelé à ne plus être vous-même, et à cibler tout ce qui est comme loi de cet endroit que vous avez voulu habiter, ou bien immigrer, ou quelque chose comme ça. Et il faut vraiment avoir les nerfs solides. C'est pour ça que vous voyez, 90% des gens, quand ils ont choisi l'immigration, ils perdent leur identité. C'est-à-dire, ils ne savent pas rester la même personne qu'ils étaient en Afrique. Vous pouvez retrouver un ami ici en Europe, vous demander, mais comment tu es devenu comme ça? Tu n'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Mais c'est la réalité de l'endroit où ils vivent qui les pousse à être là fait de devenir ce qu'il est devenu. Donc moi, j'ai fait une prière, j'ai demandé à ce que je reste la même personne au Congo, en Europe, l'Angleterre ou la France, que je reste la même personne, que je puisse garder mes valeurs, que mes parents m'ont appris et qu'on sort. Donc voilà, c'était comme ça. Quoi.
Et vous les avez gardés. Vous êtes resté la même personne.
Oui, je pense que je suis resté la même personne parce que j'ai encore des tas d'amis et je suis resté une bonne personne, je crois, parce que je ne sais pas toujours savoir si réellement je suis une bonne personne, mais je pense que je suis resté une bonne personne.
Alors, M. Bichou Malala, vous êtes notre invité pour la chronique congolaise de l'étranger. Vous vivez en Angleterre, ça fait 8 ans. Vous êtes informaticien de formation. Aujourd'hui, vous faites une spécialisation dans les télécommunications parce que, comme on le sait, les diplômes congolais ne sont pas homologués à l'étranger. Donc, vous avez, on va dire, carrément dû tout reprendre à zéro, hein, du point de vue des études.
Hein. Bon, je ne dirais pas tout reprendre à zéro, parce que quand vous arrivez ici, il y a la langue que vous devez apprendre. Et une fois que vous avez appris la langue et que vous passez les SST ici, c'est une formation, et bon, je dirais que c'est comme le baccalauréat ici. Quand vous avez ça, ça vous donne un niveau qu'on appelle standard. C'est-à-dire que chaque enfant qui naît ici, qui grandit, il est au moins obligé à arriver à ce niveau-là. Et après, ça, si vous voulez approfondir, c'est votre droit ou vous voulez arrêter. Mais quand moi, je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai fait un test dans le domaine informatique et c'est de là que j'ai pu me défendre, j'ai pu valoriser mes qualités et tout. Et à partir de là, c'était facile pour moi. J'ai dit que bon, je vais aller droit dans les networking engineering, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là parce que tout n'était pas du charabia pour moi. Je connaissais de quoi je parlais et généralement, malheureusement, il faudra éprouver. Vous ne pouvez pas venir, vous vous dites à un blanc que non, moi je suis ingénieur, ceci, cela. Ils sont sceptiques, ils doutent, parce que vous savez, quand vous parlez d'abord l'anglais, ils savent que cette personne n'est pas née ici en Angleterre, il apprend. Donc, mais quand ils vous laissent devant Cisco 2000, 3000, bon, ils demandent de reprogrammer tout un réseau ou de planifier les distributions et qu'on se vous le fait, et c'est là généralement ils sont épatés, ils disent oh, vous avez appris ça, où j'ai appris ça en Afrique. Et généralement c'est difficile et surtout c'est embarrassant de voir dans les visages comment ils arrivent à être étonnés, quelqu'un qui arrive de l'Afrique, il est capable de travailler, il est capable de faire ceci.
Vous faites vos preuves et ils sont agréablement surpris. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose hein, qu'on vienne du Congo ou de l'Afrique en général et qu'on n'ait pas à l'étranger. Alors maintenant, on va parler du travail que vous faites. Vous travaillez pour le deuxième plus grand supermarché anglais, Sainsbury. Mais vous êtes dans le domaine ou dans le département informatique. En quoi consiste votre travail exactement?
Oui, mon travail consiste à la gestion des banques de données et au réseau. Ça dit que vous avez, quand vous avez un supermarché comme Sainsbury's, vous gérez à l'échelle nationale. Et quand vous gérez à l'échelle nationale, il y a des demandes qui arrivent de partout. Il y a, par exemple, comme au Congo, vous avez des demandes qui arrivent de Lubumbashi, qui arrivent de Bandundu, de Kivu, et tout ça, vous devez les centraliser et être en mesure de savoir combien de données, de marchandises nous avons besoin, nous avons ordonné, et où et ça se distribue le mieux. Et tout ça, c'est informatisé, parce que vous ne pouvez pas avoir une entreprise de cette taille-là et ne pas avoir les systèmes informatiques. Vous avez les systèmes informatiques qui vous permet d'être en contrôle de tout. Et moi, je suis là dans le domaine et c'est un peu ce que je fais. C'est voir les commandes, envoyer les commandes. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est plus technique, quoi.
OK. Est-ce que vous avez des projets pour nous apporter, enfin apporter au Congo, toute cette nouvelle technologie que vous avez appris là-bas? Est-ce que vous avez des projets de retourner ici?
Oui, bon, moi, par expérience, j'ai parlé de moi, parce que j'ai des amis qui disent que le Congo, c'est de l'histoire ancienne. Mais moi, le Congo, c'est ça m'a toujours manqué. Depuis les jours où j'ai quitté le Congo, ça m'a toujours manqué. Et quand vous vivez votre vie un peu plus de 25 ans dans un pays et vous allez vous installer ailleurs, c'est pas pareil. Donc, mais c'est pas facile de vouloir apporter votre contribution au Congo, parce qu'au Congo, généralement, les choses qui paraissent normales ne sont pas normales. Bon, c'est pas facile. Parce que vous pouvez dire, bon, je travaille avec des blancs et je les parle de mon pays, ils entendent dans les news et c'est OK, on va ouvrir une branche au Congo. Mais quand vous amenez des gens au Congo et ce que vous avez parcouru comme démarche pour essayer de faire asseoir ça, pour les blancs, ça peut paraître insolite. Ils peuvent vous dire, bon, OK, nous, on est en train d'investir, pourquoi on doit passer par ceci ou par cela pour investir? C'est nous qui mettons de l'argent, c'est nous qui essayons d'aider ton pays et pourquoi devons-nous faire ça? Et vous devez expliquer, non, vous savez, en Afrique, il y a des réalités, c'est un peu ça. Mais pour moi, ça ne dépendait que de moi, parce que si moi je dois faire quelque chose, ça sera à l'échelle locale, c'est-à-dire que ça peut être une machine, ou disons, à Gombe, quelque chose comme ça, mais si j'envisage un truc déjà local,
national,
partout en RDC, il faudra l'apport
d'autres partenaires étrangers. Oui, bien sûr.
Oui.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Pichu Malala, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous étiez notre invité pour la chronique congolaise de l'étranger. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse diaspora@radiookapi.net.